À voix nue. Cette semaine, Dany Le Gras rencontre Jacques Berès. Ce soir, baptême du feu.
Bonsoir Jacques Berès.
Bonsoir.
Vous êtes un médecin habitué aux épreuves de la guerre, véritable expert de la chirurgie orthopédique et réparatrice. Vous opérez les plus démunis depuis un demi-siècle. Vous dites de vous-même que vous êtes un dinosaure de l'humanitaire. Et Bernard Kouchner vous a baptisé les docteurs trompe-la-mort. Merci d'être avec nous tout au long de cette semaine dans Un Voix Nue. Nous avons évoqué hier votre enfance, ces sentiments d'abandon que vous avez pu ressentir tout au long de votre vie. Nous avons parlé des années de Cagne. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu, si vous voulez bien, sur les choix de la médecine. Comment ça s'est fait, Jacques Berès? Comment vous avez tombé en amour ou pas de cette profession?
Oui. C'est une belle expression, tomber en amour, oui. C'est un peu ça. Ceci dit, les débuts ont été chaotiques, au moins. J'ai donc été vidé de Louis le Grand. J'ai même pas songé à présenter le concours de Normal Sup, j'avais aucune chance. Et j'avais envie de faire médecine. Et une amie... Les femmes m'ont toujours beaucoup aidé dans la vie, dès le début et dès mes études. Une amie m'a dit « Écoute, je crois que quand on est élève préparatoire d'une grande école, il y a un truc qui s'appelle le SPCN, ce qui voulait dire sciences physiques, chimie naturelle, qui peut faire équivalent au PCB. Le PCB... Physique, chimie, biologie, c'était la fameuse première année qui servait de couperet pour éliminer pas mal de candidats. Mais si on était élève préparatoire, peut-être qu'on pouvait passer le concours sans avoir été inscrit, sans être allé au cours, voilà. C'était à la fac des sciences, c'était à Jussieu. En période d'inscription, je fais la queue, j'arrive au guichet, bonjour madame, bonjour jeune homme, je voudrais m'inscrire au SPCN, au concours du SPCN, il paraît que, et je fais mon baratin, élève préparatoire à grande école, mais certainement jeune homme, quelle grande école préparez-vous? Je dis madame, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Ah, c'est bien ça, jeune homme, c'est bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'élèves de normal qui présentent le SPCN. Et vous êtes en maths pure ou en physique, chimie? Non, madame, excusez-moi, je suis en lettres classiques, philosophie. Elle dit, ah non, il y a erreur de casting complète. Non, ça va pas. Elle dit, je sais pas, au fond. Elle était gentille, cette dame, elle dit, je sais pas, a priori, d'abord, vous n'avez aucune chance, c'est un examen difficile, et deuxièmement, je sais même pas, je crois pas que vous ayez le droit de le passer, je vais aller voir le règlement. Et elle quitte son bureau, elle trottine, derrière, et elle disparaît. Et il y avait la queue derrière pour s'inscrire, et les jeunes gens, ils commencent à dire, fais chier, toi. Et je dis, c'est pas ma faute, je suis désolé, je vais poser une question, elle se barre. Et elle revient en disant, écoutez, je sais pas, j'ai rien trouvé pour votre cas, donc ce qui est pas interdit forcément est autorisé quelque part, donc je vous inscris, mais je vous préviens, vous n'avez aucune chance. Merci madame. Donc j'étais inscrit à l'examen et je me suis fait effectivement coller au mois de juin, c'était 15 jours après, j'avais une année de sciences. Bon. Et alors, j'ai été autorisé à repasser en septembre parce que à l'épreuve de biologie végétale, je crois, la question était le chou radis. Article le, et puis chou, trait d'union, radis. Voilà. Alors, je demande à mon voisin de devant, c'est quoi le chou radis? Il me répond, ta gueule, c'est les Américains. Ok. Je demande à mon voisin de derrière, c'est quoi le chou radis? Il me dit, ta gueule, c'est les Russes. Bon, j'étais très avancé. Et alors j'ai répondu, je n'en mange jamais. Et j'ai rendu ma copie. Et j'ai eu 0,5 sur 20, ce qui était très gentil du jury, parce que 0, c'était éliminatoire, une année. À quoi ça tient, les choses? 0, c'était une année perdue. 0,5, le droit de repasser en septembre. Donc, j'ai pas eu de vacances, j'ai bachoté comme un fou, j'ai une bonne mémoire, donc j'ai ingurgité, et je suis passé en septembre. Dans le métro, j'avais révisé en géologie les glaciers, question de géologie, les fronts glaciaires, 19 sur 20, paf, génial. Jackpot, voilà. Donc, me voilà inscrit en médecine, vraiment, première année de médecine. Alors, je suis pas allé au cours pendant, je sais pas quoi. Pendant les deux premières années, je suis pas allé à la fac. Je sais pas comment ça se fait, j'avais même pas une carte d'étudiant en règle, à force de pas aller à la fac. Et du coup, j'avais pas le droit au resto U. À l'époque, il y avait des dragons à l'entrée qui vous disaient « Votre carte !» Bon. Donc, j'ai vraiment mal mangé pendant quelques mois. Moi, je jouais au poker. Oui, je gagnais ma vie avec des petits boulots. Je m'étais un peu...
Il me semble, Jacques Berès, je vous interromps, pardon, que vous avez travaillé au hall.
Ouais, pas comme porteur, je suis pas assez costaud, mais comme emballeur, pré-porteur, rouleur, bon, etc.
Donc ça veut dire que vous habitiez plus du tout chez vos parents, vous étiez à votre propre compte à l'âge de 18 ans?
Oui, 17, 18, oui, c'est ça, ouais.
Matériellement indépendant, avec ces petits boulots.
Ouf, oui, le poker, les halles, une traduction de ci, de là, enfin bon. Oui, et puis surtout, squatter chez des copains, vivre en communauté, en squat, en colocation. Ce qu'on peut faire quand on est jeune.
Et politiquement, vous étiez déjà intéressé au groupuscule socialisme-barbarie ou c'était plus tard? Ça.
Non, c'était à ce moment-là. C'était à ce moment-là le début. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 2 ans. Ouais, deux ans, 3 ans, mon militantisme a essoubé. Mais c'était une belle période et des belles réunions. Et c'était assez passionnant, hein. Le fort Castoriadis, surtout. Moi, je tractais, Enfin, j'étais admiratif. On peut dire quand même...
Vous écrivez aussi dans la revue?
Non.
Vous étiez trop jeune.
J'étais surtout pas de niveau politique. Non.
Mais en tout cas, ça vous inspirait.
Ah oui. Vous savez que c'est socialisme ou barbarie, enfin c'est Corneille Castoriadis, qui, le premier, je crois vraiment, en Occident, a annoncé la chute de l'Empire soviétique de l'intérieur. Et il a écrit clairement, longuement ça, que ça allait... Tout le monde voyait ça parti pour l'éternité, hein, le rideau de fer, la méritocratie communiste, la corruption, ce régime policier dur, dictatorial, vissé sur lui-même, etc. Tout le monde voyait ça parti pour des décennies ou des siècles.
Et lui,
il a dit, ça va se casser la gueule en s'écroulant de l'intérieur. Exactement ce qui s'est passé une vingtaine d'années après.
Donc, vous êtes étudiant en médecine, vous travaillez un petit peu, vous jouez au poker, vous squattez à droite, à gauche, etc. Les années passent et vous êtes un bon élève, quoi. Engagé.
Ah non, pas du tout.
Pas du tout. Toujours à une espèce de cancre.
Oui. Oui, à l'échelle de la fac, oui, plus du lycée, mais de la fac. Ah oui, bien sûr. Oui, j'ai été sauvé par le gong et par une amie. J'étais au bistrot, le bistrot à côté de la fac, en train de jouer au poker. Et une amie arrive, je lui dis, tu veux un café? Elle me dit, oui, merci. Elle prend un café, elle dit, ah, je suis content, j'ai fini cette corvée. Et moi, je regardais mes cartes et je lui dis, mais quelle corvée? Elle me dit, ben l'inscription. Je lui dis, oui, mais quelle inscription, ma chérie? Ben, l'inscription pour l'année suivante, c'est le dernier jour aujourd'hui. Je regarde, il était 16h30, elle me dit, ah ben, faut que tu te dépêches, c'est 17h, hein, la fermeture des inscriptions. Il était 16h30. Donc j'ai fait le tour de mon bistrot, je suis rentré à la fac, où j'ai demandé mon chemin pour savoir où était la fac. On m'a indiqué la fac, voilà. Et je me suis inscrit. Mais vraiment sauvé. Bah, si cette fille était rentrée chez elle au lieu de passer prendre un café, j'aurais pas su. L'inscription était close. Enfin bon, la cata. Voilà, ça s'est passé comme ça. Bon, après, il y a eu un concours qui s'appelait le concours d'externat. Ça n'avait aucun intérêt. Donc, je me suis retrouvé. Il y avait un classement à ce concours. Et je me suis retrouvé, je crois, 370e sur 400. Alors, 370e sur 400, on se dit, le boulet est passé pas loin. Bon. Alors, le vrai concours, c'était le concours de l'internat, qui était vraiment dur à l'époque. Vraiment dur. Pour l'internat, il faut travailler avec ce qu'on appelle des sous-colles, c'est-à-dire des groupes de travail où on s'aide. Alors, j'ai eu une idée que je trouvais assez ingénieuse. Je suis allé voir les 10 premiers du concours. Ceux qui avaient entre le numéro 1 et le numéro 10. Moi, j'étais 370 ou 372, je sais plus, enfin sur 400, la honte. Et je les ai menacés un par un.
De quelle manière?
Ben, de la manière, pas avec un gun, hein, en leur disant, c'est pas de peau pour toi, parce que moi, je vais être reçu la première fois. Toi, je sais pas. Mais si tu travailles avec moi, ça augmenterait tes chances. Au revoir! Et je me suis tapé les 10 premiers en les menaçant comme ça, en disant, toi, je sais pas si tu vas être reçu, t'es bien parti, mais.
Coup de poker.
Ouais.
Bluff total.
Bluff total. Voilà. Toi, t'es bien parti, mais je sais pas, c'est dur l'internat. Moi, je vais être reçu du premier coup. Ça, voilà. Voilà.
Et quand vous êtes parti au Vietnam,
Oui.
donc c'était en 66,
7, le
7,
départ, oui.
7,
Ouais.
vous étiez toujours étudiant?
Ben, je venais de réussir l'internat de la promotion 65, dont les résultats avaient été publiés en 66, voilà.
Alors là, j'aimerais bien qu'on
Oui.
s'arrête un peu parce que c'est vraiment un moment de votre vie que moi je trouve particulièrement fou. Donc vous partez au Vietnam, vous allez travailler dans l'hôpital Graal à Saigon. C'est quoi les contextes déjà? Comment faites-nous voir Saigon en 67, l'hôpital? Vous êtes très bien installé, vous avez 26 ans, votre meilleur ami, il me semble, est là-bas aussi.
Bernard Coustex, celui qui s'est fait vider de Louis le Grand en cagne avec moi, qui entre-temps a eu une agrégue de philo et qui a fait son service national, VSN, à Saigon comme prof de philo à la fac de Saigon.
Et la guerre dans tout ça, la guerre était loin.
Elle était loin de Saigon,
Donc
oui.
vous ressentez pas.
Ah non, Saigon, non, Saigon, pas la guerre, hein. Je vous raconterai l'offensive du Tet, bien sûr, où la guerre est arrivée dans Saigon, mais les premiers mois, la première année plutôt, enfin bon, Saigon, super calme, club sportif, piscine, tennis, les pousse-pousse, la gastronomie vietnamienne. Les petites vietnamiennes, jolies comme tout, parlant le français, la bonne société, mieux que moi, etc.
Donc, une vue plutôt chouette pour
Ah,
un jeune
tout à
médecin.
fait, tout à fait, tout à fait. Une installation somptueuse, la maison de l'entrée de l'hôpital, que je partageais avec l'autre plus jeune médecin. Mais qui lui avait fait l'école de santé militaire à Bordeaux. On était sous des flamboyants, avec une femme de ménage attitrée à notre maison, adorable, formidable. On n'avait pas le temps de laisser tomber une chemise par terre qu'elle était déjà
Donc tout.
ramassée, repassée, lavée, etc. Vous savez la définition de la mère juive, la meilleure? C'est. Si tu te lèves pour aller faire pipi, quand tu reviens, ton lit est déjà fait.
C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis les 30 janvier 1968, vous assistez au combat de l'offensive du Tet qui vont se dérouler en plein cœur de la ville et vous êtes le seul médecin présent à votre hôpital. Et
Oui.
tout d'un coup, Jacques Berès, vous avez des dizaines de blessés de guerre à soigner.
Oui.
Racontez-nous cette fameuse offensive du Tet. Parce que c'est là, il me semble, que vous avez votre première expérience
Ah
de guerre.
Ah bah oui, tout à fait. Alors, bah je dormais très bien, merci. J'étais effectivement seul dans l'hôpital parce que c'était le plus long week-end de l'année et le plus calme. C'était l'équivalent d'un 31 décembre, la veille du Tet. Enfin, pas tout à fait calme parce que, bah vous savez bien, à Hong Kong-sur-Seine, dans la ville chinoise, quand ils fêtent le Tet, c'est très bruyant parce qu'il y a les gros pétards de poudre noire qui mettent en chapelet, et ça s'allume et ça fait. Et Jap a misé là-dessus, c'est-à-dire, il a fait son offensive le soir où il y avait des milliers de chapelets de pétards de poudre noire qui pétaient dans la ville, et le bruit des vrais fusils d'assaut, c'était la même chose que les chapelets. Bon, et personne s'est rendu compte que la ville était totalement investie. Pendant des semaines et des semaines, ils avaient apporté des armes en ville. En poussant des petites voitures de légumes, et il y avait des armes sous les
En
légumes, et ils
cachette.
ont fait des caches, et ils ont sort, etc. Et le soir du Tet, au signal, ils ont pris la ville, y compris l'ambassade américaine, qui était très voisine de l'hôpital. Les marines de garde, ont dû remonter, 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 jusqu'au tout dernier étage qu'ils ont tenu. Ce qui fait que le drapeau américain n'a été descendu que par l'extérieur, mais bon, etc. Et il y a eu une émeute, on a tout jeté, les documents, le matériel, enfin, ils ont volé ce qu'il fallait voler. Et sinon, tout jeté, les documents de l'ambassade américaine par terre. Et la ville était aux mains des Viettes, des jeunes Viettes, qui étaient très jeunes. Et qui avait un badge ovale, là, avec une carte du Vietnam. Le Vietnam est un pays en longueur. Donc c'était un badge ovale avec marqué né au nord pour mourir au sud. Et effectivement, ils sont morts au sud. Ils ne se sont pas rendus du tout.
Du tout.
Du tout. Ils ne se rendaient pas. Et comme a montré le film Full Metal Jacket de Kubrick, même une fille dans un immeuble en béton, ça peut arrêter un bataillon. Et alors deux combattants dans un immeuble en béton, ça arrête un régiment. Hein, parce que, voilà, il faut écraser le bâtiment pour que, si les types ne se rendent pas, il faut écraser le bâtiment et qu'il soit dessous les décombres. Bon. Donc ça a duré la reconquête de Saïgon. Avec les moyens des Américains, y compris les missiles en ville tirés par des jets, donc avec une précision zéro, parce que tirer à 400 ou 500 km/h des missiles en ville, c'est bon.
Donc des milliers et milliers de victimes.
Oh, je crois pas, non, je ne sais pas les chiffres officiels, mais des centaines, oui, sûrement, des centaines. Et puis tous les membres des commandos qui étaient rentrés en ville. Et alors le général Nguyen avait interdit qu'on les enterre, qu'on les nettoie, rien. Quand ils tombaient, l'ordre était de les laisser crever sur place. Le problème, c'est qu'à Saïgon, il fait chaud, et qu'au bout de 3 jours, ça gonfle les cadavres, il y a les vers qui apparaissent, il y a les mouches surtout. Et les mouches, c'était la première fois que je voyais ce phénomène, mais que j'ai retrouvé malheureusement largement au Rwanda en 94, des milliers de mouches, ou peut-être des dizaines de milliers de mouches sur un cadavre, ça fait un bruit incroyable. On dirait un petit hélicoptère. Ça fait zzzz, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ça. Vous entendez ce bruit à 100 mètres, enfin, oui. Voilà, il y avait ça dans la ville.
Et combien du temps il vous a fallu pour avoir un peu de renfort, hein? Enfin, vous avez soigné les
Oui,
blessés.
alors ce qui se passe, c'est que je travaillais le matin à Cholon, qui est la ville chinoise de Saïgon, dans un ancien hôpital militaire français, qui était resté comme hôpital civil, qui était bien. Et quand il y a eu les tirs, le gardien de l'hôpital, qui était resté en place, il y avait le personnel, infirmier, le personnel logistique, infirmier de nettoyage qui était resté en place. C'était les médecins qui avaient pris leur week-end. a mis les chaînes aux grilles de l'hôpital pour pas que, bon, tous les malades qui restaient, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'ils n'avaient pas envie de passer le week-end. C'était une espèce de clinique de luxe pour la haute bourgeoisie, Graal. Donc ils s'étaient tous barrés, y compris une petite dame que j'avais reçue la veille au soir, c'était ma seule urgence, qui voulait absolument avoir une appendicite. Elle m'a dit « si, si », elle avait des bijoux plein les bras. Elle disait « si, si, là, quand on a mal là, c'est appendicite ». Je lui ai dit « oui, mais non, pas vous ». ».« Si, si, appendicite ». Bon.
Elle avait décidé que c'était le cas.
Elle avait décidé qu'elle couchait là, que c'était… Bon, alors j'ai fait des examens, je l'ai mis dans un lit et tout. Et le matin de l'offensive, c'est la première que j'ai vue courir dans la cour de l'hôpital, en traînant sa valise et en… cavalant sur ses petites jambes, dit « ah, j'avais un bon diagnostic, elle n'a pas l'appendicite ». Bon, et voilà. Et alors, mes copains de l'hôpital de Cholon me téléphonent en disant « comment ça va chez toi ?» J'ai dit « merci, bien, soleil, les chaises longues, je lis un bon livre, tout va bien, je fume ma clope. Ici, c'est l'enfer, c'est la fin du monde, on a deux blessés par lit, plus un en dessous, il y a du sang partout, on n'a plus rien ». On n'a évidemment plus de sang, mais on n'a plus d'antibiotiques, on n'a plus rien. Voilà, on dérape sur le… c'est la fin du monde. Est-ce que tu peux prendre des blessés ? Je leur dis oui. Mais vous savez, j'ai été nommé interne l'année dernière, je suis nul. Comme chirurgien, je suis… Bon, oui, écoute, ça ne peut pas être pire qu'ici. On t'en envoie. Mais je leur dis oui, mais attendez, ils passeront pas. Ça tire partout, moi je peux vous dire, je suis à l'abri. Parce que les murs sont hauts, mais… ça tire partout, en tir croisé, ils passeront pas. On te les envoie quand même, ça peut pas être pire qu'ici. Ah bon. Une heure se passe, deux heures se passent, rien n'arrive. J'ai dit, bon, ils ont été bloqués. Et au bout de deux heures, tombée de la nuit, deux camions avec des drapeaux blancs partout, deux gros camions bâchés, plein de blessés de guerre. Des trous partout, des gens qui râlaient, des membres en moins, enfin, l'horreur. 63 blessés de guerre.
Alors, arrêtons-nous là à ce moment précis. Donc, votre première expérience en tant que chirurgien des guerres, on va dire. Ouais. Est-ce que vous avez un ressenti particulier à ce moment-là ? Un déclic ou pas du tout ? Parce que c'est tellement chaotique, on n'a même pas le temps de réfléchir.
Si, je me suis rappelé.
Vous vous êtes dit, c'est intéressant, ça m'intéresse finalement.
Ah non, non, je me suis dit.
Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez découvert une vocation à ce moment-là ou pas ?
Non, après ça, non, pas à ce moment-là. J'ai dit, c'est n'importe quoi, je ne suis pas du tout au niveau pour faire ça. Bon, mais il va falloir le faire parce que c'est un des problèmes de l'humanitaire. C'est, il y a un truc à faire, vous regardez derrière votre épaule, il n'y a personne derrière. Donc, c'est à vous, pof. Donc, j'ai appliqué les règles. Il y a des règles qui s'appellent les règles du tri. Il y a trois catégories de blessés. Il y a ceux qui vont mourir forcément, c'est pas la peine de les soigner parce qu'ils sont mourants, ils vont mourir. Donc il faut leur donner des antalgiques, les bourrer d'antalgiques et les laisser partir vers un autre monde. Il y a ceux qui peuvent attendre parce que c'est des blessures, oui, mais ils vont pas mourir tout de suite. Et donc voilà, et il y a la catégorie intermédiaire qu'il faut opérer le plus vite possible. Donc en commençant par ceux dont l'opération, en principe, nécessite le moins de temps pour pouvoir enchaîner, etc. Donc je suis parti au bloc avec le premier patient, j'ai dû faire une heure et demie d'opération, je suis sorti au bloc, j'en avais mis 11 dans la catégorie « vont mourir de toute façon » en disant aux infirmiers « tu donnes le max », etc. Quand je suis ressorti de ma première opération, on avait déjà 2 des 11 qui étaient morts, j'ai dit « c'est normal ». Les autres, il n'y avait pas de mort. J'ai dit, mon tri est impeccable. Parfait, on continue. Et alors, voilà, j'ai opéré la nuit, le jour d'après et la nuit d'après encore.
Non-stop.
Non-stop. Donc, deux nuits et une journée non-stop. Les infirmiers de bloc me faisaient dormir sur un chariot de malades, les chariots pour pousser les malades. 5 minutes entre chaque, le temps de… laver la salle et de préparer, voilà. Il me réveillait en me secouant, en me versant du thé très chaud, et en disant « vas-y docteur, ça va aller ». Bon, d'accord. Et mes copains, un médecin qui était en week-end, il me téléphonait à l'hôpital. Alors, il n'y avait pas de portable, à l'époque c'était les téléphones fixes, et les infirmiers disaient « docteur, un appel pour toi, ben, prends-le ». Ah ben c'est le médecin-chef, il dit ça va. Tu dis non, ça va pas, mais on fera ce qu'on pourra. Bon, et voilà. Et alors après, ils sont arrivés parce que ça arrêtait les tirs. Ils sont servis voiture diplomatique, machin, voiture de service. Ils ont pu rentrer dans l'hôpital. Ils sont allés me voir, ils m'ont dit t'as mauvaise mine. Je dis ah oui, d'accord. Bon, va te coucher. Alors j'ai fait dodo toute la journée et toute la nuit d'après. Donc voilà. Et le jour d'après, le médecin-chef me dit, enfin le chirurgien-chef m'a dit, qui était un bon copain, me dit, c'est pas mal ce que tu as fait pour un débutant comme toi, c'est pas mal, hein? Il y a beaucoup de survivants dans ceux que tu as opérés. Ah, j'étais content, content.
Sauf que...
Oui. Sauf qu'on a un problème. Ah oui, c'est quoi le problème? T'as pas fait un seul compte-rendu. Ah. Et ça, c'était la connerie totale. Parce que, bon, il n'y avait pas. Je sais plus, enfin, je sais plus si on avait une machine à dicter ou pas, mais enfin, on met trois mots. Femme, tel âge approximatif, femme, 50 ans, plaie abdominale, foie touché, parage, intestin, suture, poing, voilà, drain, voilà. Ça prend. Mais. J'étais tellement stressé et tellement dans l'opération que j'ai pas du tout pensé. Donc, aucun compte-rendu, pas un mot. On m'a fait faire une visite des gens que j'avais opérés, qui me souriaient, qui me tendaient des mains, qui me remerciaient. Beaucoup, docteur, merci. Et je disais, cette personne, ce monsieur, cette dame, que j'ai jamais vue, parce que les infirmiers me les avaient préparés, c'est-à-dire, tout était caché derrière les champs opératoires, sauf un endroit qui était découvert, badigeonné, et que je devais opérer. Donc, qu'est-ce que j'ai pu lui faire? Alors, par précaution, j'avais fait comme on apprenait et comme les débutants font. Je mettais des drains partout pour que les saletés, les humeurs, le sang, la bile, l'urine, enfin ce qui devait sortir, sorte. Donc, ils étaient hérissés de tuyaux et pendant plusieurs jours, on a tiré doucement, centimètre par centimètre, les tuyaux de drain pour voir ce qui venait, si c'était de la bile, de la lymphe, du sang, autre chose, de l'urine. Et il n'y a pas eu de décès supplémentaires dans les suites, malgré les comptes rendus oubliés.
Merci Jacques Béhéz, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Dany Le Gras avec Jacques Berès. À voix nue, réalisation Delphine Lemaire, prise de son Nicolas Mathias, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.